Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Une possible fuite dans une centrale nucléaire française au sud de la Chine, EDF assure que la situation est sous contrôle. En Corse, des résidus d'hydrocarbures découverts sur une plage, la pollution continue de dériver vers le sud de l'île. L'épidémie de Covid repart en Grande-Bretagne malgré la vaccination, sans doute l'effet du variant Delta. Le procès rarissime d'un juré d'assises et de ses présumés complices, accusés d'avoir pesé sur un verdict. Israël tourne une page de son histoire avec le départ de Netanyahou, la suite s'écrira sans lui. Quel défi, quel changement pour ce pays? L'historienne et spécialiste Frédéric Chillot sera l'invité d'Europe Midi. Et puis le football, l'arrivée des Bleus à Munich à la veille du match contre l'Allemagne, ambiance assombrie par la querelle Giroud-Mbappé.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nouveau déboire pour le nucléaire à la française, la centrale de Taishan dans le sud de la Chine, premier EPR au monde à entrer en service en 2019, vient de subir une fuite de gaz radioactif, information rapportée par la chaîne CNN et en partie confirmée ce matin par EDF. Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1, que sait-on de cette fuite ?
Alors ce que je peux vous dire, c'est que du gaz a été détecté dans un circuit du réacteur numéro 1 de la centrale, du gaz qui ne devrait pas se trouver là. Il ne s'agit pas d'une fuite vers l'extérieur, puisque le circuit dans lequel il se trouve est fermé. Néanmoins, EDF, qui détient 30% de la société qui exploite la centrale, étudie la situation de près, m'a-t-on dit. Un conseil d'administration extraordinaire doit avoir lieu très rapidement pour comprendre l'origine du problème. On est mobilisé aussi du côté de Barbara Pompili, ministre en charge de la transition écologique. Même chose au commissariat de l'énergie atomique qui dit essayer de récupérer des informations. Ce qui surprend dans cette affaire, c'est qu'il n'y a eu aucune communication, ni de la part d'EDF ou même des autorités françaises qui pourtant étaient au courant. Il a fallu attendre que CNN révèle cette affaire. Pour le moment, la centrale, elle, est encore en fonctionnement, mais cet incident est évidemment très embarrassant pour EDF puisqu'il s'agit du tout premier EPR, ces centrales nouvelle génération qu'EDF veut promouvoir partout dans le monde. Et surtout, cela arrive au moment où EDF espère convaincre Emmanuel Macron de donner son feu vert pour construire 6 nouveaux EPR en France.
Maud Descamps, et après les ratés du nucléaire, la pollution pétrolière au large de la Corse, la nappe d'hydrocarbures repérée vendredi, sans doute après un dégazage, continue de dériver et de se morceler. Hier soir, des premiers résidus ont été découverts sur une plage de la côte Est à Solaro, entre Aléria et Portovec, Frédéric Michel.
Oui, et pour l'instant, il s'agit des seules traces découvertes depuis samedi. Les résidus d'hydrocarbures se sont échoués sur les plages de Solaro en fin d'après-midi hier. On est entre Aléria et Portovec sur la partie orientale de l'île Italie est juste en face. Le préfet de Haute-Corse est actuellement sur place avec les élus et les secours. François Ravier.
Ce n'est pas une marée noire, on n'est pas du tout dans des phénomènes de cette ampleur. On est sur une largeur de, au maximum de 50 cm de rejet d'hydrocarbures, concentré essentiellement sur une centaine de mètres en gros, qui est d'ailleurs à cette heure est déjà largement enlevé de la plage. Donc depuis ce matin, au moins 40 pompiers et 20 gendarmes travaillent à nettoyer la plage. 2 tonnes pour l'instant ont été évacuées, alors hydrocarbures et sable bien sûr.
Alors 2 tonnes sur les plages environ et 4 tonnes d'hydrocarbures récupérées en mer. Depuis samedi, 3 bateaux sont également suspectés. Ils sont arrivés dans leur port d'attache, c'est-à-dire que la procédure va pouvoir démarrer. Des analyses d'eau et d'hydrocarbures sont également en cours. Et en ce moment même, des reconnaissances à terre sont menées par des gendarmes et pompiers pour savoir si d'autres zones sont touchées. Un drone va être déployé dans l'après-midi. Évidemment, l'accès aux plages et à la baignade reste interdit.
Merci Frédéric Michel. La crise sanitaire à la veille de l'ouverture de la vaccination aux adolescents de 12 à 17 ans, tous les voyants sont au vert, les contaminations en chute libre, à moins de 4000 cas par jour. Même chose en Allemagne et dans la plupart des pays du continent. Mais la tendance s'est inversée en Grande-Bretagne, où le virus circule chaque jour un peu plus, malgré l'avancée de la vaccination. Que se passe-t-il outre-Manche, Victor Delande?
Oui, en fin de semaine dernière, en fait, la courbe des contaminations en France est repassée en dessous de celle de la Grande-Bretagne. Ça n'était plus jamais arrivé depuis début février. Un peu moins de 4000 nouveaux cas, vous l'avez dit, Patrick, par jour chez nous, contre plus de 7000 de l'autre côté de la Manche. En fait, c'est le variant indien, désormais appelé variant Delta, beaucoup plus contagieux, qui est responsable de cette augmentation de cas. Et pour cause, 96% des contaminations en Grande-Bretagne sont désormais imputables à ce variant Delta. Et malgré 43% quand même des Anglais vaccinés avec deux doses, le variant Delta trouve encore des cibles à contaminer, ce qui prouve bien que les efforts de vaccination sont encore à produire, avec près d'une personne sur deux vaccinée dans un pays. L'immunité collective est encore loin, selon les projections, il faudrait que 85 à 90% de la population soit vaccinée pour atteindre cette immunité de groupe. En France, le variant indien est encore largement minoritaire et les contaminations n'ont jamais été à un niveau si bas depuis août 2020. Le taux d'incidence au niveau national est de 47 et 72 départements de métropole ont désormais un taux d'incidence inférieur à 50. C'est donc chez nous une très bonne nouvelle.
Pour le port du masque en extérieur, prudence des autorités, aucune décision n'est prise, affirme le ministère de la Santé. En Europe, pour l'instant, seul le Danemark a levé aujourd'hui l'obligation de porter le masque, sauf dans les transports en commun.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, Israël sans Netanyahou à sa tête pour la première fois depuis 12 ans, l'actualité judiciaire et le football, quelques grimaces chez les Bleus à la veille de leur premier choc contre l'Allemagne.
Europe Midi. Patrick Cohen.
C'est un curieux attelage, deux partis de gauche, deux du centre, trois de droite et une formation arabe coalisée pour chasser du pouvoir celui qu'il a occupé pendant 12 ans sans discontinuer, Benjamin Netanyahou. Son départ a suscité des scènes de liesse hier soir dans les rues israéliennes. À sa place, l'un de ses anciens directeurs de cabinet, Naftali Bennett. Quels seront ses premiers défis, Gwendoline de Bonneau?
Oui, les membres de ce gouvernement du changement concèdent que l'exercice du pouvoir sera difficile, tant les clivages politiques sont importants au sein de cette coalition. C'est la raison pour laquelle Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre, veut se concentrer sur des sujets qui n'exposent pas d'emblée les désaccords de sa majorité. Il parle d'éducation, de nouvelles technologies, de réformes de l'administration, bref, rien qui touche au conflit israélo-palestinien. Toutefois, le nouveau gouvernement risque de ne pas avoir le choix de son agenda. D'abord, demain, une marche de juifs d'extrême droite est prévue aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Ensuite, à Gaza, le cessez-le-feu n'est que temporaire, il faut le consolider. Le sort des familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit de colons à Jérusalem n'est pas réglé non plus. Autant de sujets pièges pour cette coalition qui s'étend de la gauche à la droite radicale en passant par les islamistes. L'opposition désormais incarnée par Benjamin Netanyahou exploitera chacune de ses failles pour faire chuter ce gouvernement.
Gwendoline de Bonneau à Jérusalem, on revient sur cette page d'histoire en Israël avec notre invité Frédéric Chillot. À Bruxelles débute dans 20 minutes un sommet de l'OTAN qui va déboucher sur un message d'unité et de fermeté face à Moscou et Pékin. Un suspect interpellé au petit matin devant le commissariat centrale de Lille, un homme qui semblait faire des repérages, des allers-retours devant le bâtiment en se dissimulant le visage. À bord de sa voiture, ils ont découvert, les policiers, quatre bonbonnes de gaz, deux jerrycans d'essence et un couteau. Il est déjà connu des services de police pour des infractions de droit commun. Il a été placé en garde à vue. L'actualité judiciaire, c'est d'abord sans surprise l'enquête sur Olivier Duhamel classée sans suite pour cause de prescription. Communiqué du parquet de Paris qui sous-entend que les faits ont été établis par les enquêteurs, mais qu'ils sont trop anciens pour donner lieu à un procès. À Bastia, troisième jour d'audience au procès du meurtre de Julie Douib par son ex-conjoint et ce matin, la sœur de l'accusée, dont le témoignage a conforté la thèse de la préméditation, Marion Dubreuil.
Oui, la veille des faits, Nadine Garcia était chez son frère. Elle était venue précipitamment de Toulon. Il m'a appelée à 7h30 le matin, explique-t-elle. Il a payé nos billets d'avion à mon mari et moi. Ça nous interroge, explique la présidente. D'autant plus que frère et sœur n'étaient pas très proches. La thèse de l'accusation, c'est que Bruno Garcia a fait venir sa sœur pour s'occuper des enfants parce qu'il avait prévu de s'en prendre à Julie. Nadine Garcia ne quitte pas son sac à main pendant sa déposition, visiblement mal à l'aise, pas un regard pour son frère dans le box. C'est une tragédie, elle ajoute. Le plus dur à supporter, c'est qu'on vous met la complicité d'assassinat. Elle n'a rien vu, rien entendu, rien compris. Pareil pour son conjoint, c'est à peine si Christophe Colin admet qu'il a parlé avec Bruno Garcia la veille des faits de la liaison de Julie avec un professeur de sport. Il m'a dit, si je les attrape ensemble, ça va mal se passer, je vais la massacrer. Je pensais pas qu'il ferait ça à sa famille, explique-t-il. Je lui ai dit, défi, il y en a d'autres, pense à tes enfants. Justement, d'après les témoignages des deux enfants, leur père, ce soir-là, a montré son arme à leur tonton. Il a même tiré deux fois en l'air, ce que Christophe conteste aujourd'hui. Mais Christophe n'est pas un témoin comme les autres. Il est aussi poursuivi pour avoir détruit des preuves après la mort de Julie.
Marion Dubreuil, envoyée spéciale d'Europe 1 aux assises de Haute-Corse. À Bobigny, c'est un ancien juré d'assises qui est jugé aujourd'hui. Poursuite rarissime, l'homme est accusé d'avoir fait fuiter un verdict, mais plus grave, à ses côtés, deux hommes sont accusés de l'avoir corrompu. C'est une affaire qui avait secoué la magistrature, Justin Morin.
Oui, alors au départ, il y a ce verdict dans une affaire de torture sur fond de trafic de drogue. C'était il y a 2 ans. 2 hommes sont condamnés par la cour d'assises à 7 et 14 ans de prison. 6 autres sont acquittés. Verdict jugé très clément par les victimes. Mais ce qui interroge surtout, c'est que dans la salle d'audience, certains membres du public étaient déjà au courant avant même que les peines soient annoncées. Le verdict a fuité. Dans la foulée, une enquête est ouverte pour violation du secret du délibéré et corruption de juré. Rapidement, on découvre que le verdict a bien fuité sur le réseau social Snapchat. Un des jurés suppléants est soupçonné d'en être à l'origine. Un homme de 24 ans aujourd'hui, sans histoire, qui l'a admis en garde à vue. Il risque 1 an de prison. Mais des écoutes réalisées dans une autre affaire permettent d'identifier 2 autres hommes, 2 caïds, dont l'un a grandi dans la même cité que le juré suppléant. Les enquêteurs découvrent qu'ils l'ont bien approché. Ils sont suspecté aujourd'hui d'avoir fait pression sur lui pour qu'il influence les débats lors des délibérations. Les 2 hommes risquent 10 ans de prison pour corruption. Alors la question, c'est de savoir si ça a réellement eu un impact. Ce qui est sûr, c'est que dans l'affaire initiale de torture, il y a eu un procès en appel l'année dernière. Les mêmes 8 suspects ont été rejugés par un nouveau cortège de jurés et les peines ont été plus lourdes.
Effectivement, merci Justin Morin. Football, les Bleus viennent d'arriver à Munich à la veille du France-Allemagne de demain. Premier match des 2 équipes dans cet Euro et derrière les sourire des Français, quelques lézards de Jean-François Pérez.
Oui, l'équipe de France qui a atterri il y a quelques dizaines de minutes à Munich sous un beau et chaud soleil et un bon air qu'on peut respirer sans masque à l'extérieur. Les sourires étaient de mise pour la traditionnelle photo dans l'avion. Au premier rang, les 3 stars de l'attaque, Mbappé, Griezmann et Benzema, extrêmement attendus ici en Allemagne. Mais la façade cache peut-être quelques lézards et la presse allemande n'a évidemment pas perdu une miette de l'algarade verbale entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Embrouille chez les Bleus, titre le quotidien Bild. La semaine passée, Olivier Giroud avait déploré ces ballons qui n'arrivaient pas, ciblant sans le nommer l'individualisme de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG lui a répondu « J'aurais préféré qu'il me le dise dans le vestiaire plutôt que dans la presse. Ce matin, dans l'équipe, Didier Deschamps a sonné la fin de la récréation. Je leur ai parlé, dit-il en substance. Il n'y a pas de tension. Et maintenant, place au jeu. Deschamps et Hugo Lloris qui auront rendez-vous à 15h45 pour la conférence de presse d'avant-match. Entraînement sur la pelouse dans la foulée. La France et l'Allemagne qui seront les dernières équipes demain soir à faire leur entrée dans cet Euro. Ce sera devant 15 000 spectateurs, 25% de la capacité du stade.
Jean-François Pérez à Munich. Le temps, Anissa Haddadi, début aujourd'hui d'une vague de chaleur.
Oui, il va faire chaud, Patrick, et ça va grimper encore dans les prochains jours. Oui, ça va grimper. On dépasse quasiment les 30 degrés partout. Alors, dans le nord-ouest, il fait doux, c'est respirable. 22 à Saint-Brieuc, 24 à Boulogne-sur-Mer, 25 à Brest et à Biarritz. Partout ailleurs, nous avons des températures estivales. 28 degrés à Lorient, 29 à Marseille et Lille, 30 degrés pour Strasbourg, 31 à Paris, Rennes et Montpellier, 32 à Limoges, 33 à Pau et Lyon, 34 à Brive-la-Gaillarde, 35 pour Toulouse et Bordeaux et 36 la maximale prévue pour Nîmes cet après-midi. Alors dans le ciel, pas grand-chose à signaler, peut-être quelques brumes côtières du côté de la Côte d'Azur, un ciel bleu pour tout le monde, avec sur les Pyrénées, attention, un léger risque orageux en montagne. Jusqu'à mercredi, les températures vont continuer de grimper et à partir de mercredi, les orages éclate, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Israël transformé par Benjamin Netanyahou au pouvoir pendant 12 ans. On en parle avec notre invité, l'historienne et spécialiste Frédéric Chilot.